حياكم الله أجمعين. طيب, كما on l'a expliqué, désolé, comme l'heure de la salat s'est décalée chez nous, donc ça fait qu'on a mis le cours à 19h20, inshallah. Donc voilà. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc طيب, toujours dans nos cours, un nouveau cours sur le fiqh. Le fiqh, la jurisprudence dans les adorations, fiqh al-ibadat. Comme vous le savez, on l'a dit, on le redit, c'est important, nous sommes dans l'étude qui s'intitule l'entrée dans l'apprentissage du fiqh. مدخل إلى دراسة الفقه, l'entrée dans l'apprentissage du fiqh. طيب, c'est donc un ouvrage, un manuel de préparation à l'entrée du fiqh qui procure certaines ma'loumettes, certaines connaissances très importantes, fondamentales concernant le fiqh. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une chose d'entrer dans une matière et directement entrer dans un livre, l'enseignement d'un ouvrage. Mais en institut, c'est meilleur. Là, on est en institut. En institut, c'est meilleur avant d'entrer dans des ouvrages qui traitent directement de cette science. Eh bien, la méthodologie, c'est d'apprendre, de prendre connaissance, justement, de cet enseignement, l'entrée dans l'apprentissage du fiqh. Et jusqu'à maintenant, vous avez certaines ma'loumettes, certaines connaissances qu'on a vues depuis le début. Et vous allez voir que cela ne va cesser de continuer d'accroître, inshallah ta'ala. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, car c'est lui qui nous permet d'enseigner, d'apprendre, et par la grâce d'Allah, d'être dans un institut et de pouvoir apprendre les sciences religieuses, différentes sciences religieuses. Donc, concernant le fiqh ici, il y a des choses, comme vous allez le constater, qui se répètent. Mais attention, ça c'est une ambiguïté qu'il faut balayer, le fait de penser, ah, il y a des choses qui se répètent par rapport à d'autres matières, etc. C'est comme ça que l'ilm, il entre. Mais au passage, entre deux choses qui se répètent, il y a des fawaïd fondamentales. Alors ne passez pas à côté. Et vous allez voir, concernant justement le cours aujourd'hui, c'est-à-dire on passe à un autre sujet, mais c'est un sujet similaire, mais avec des fawaïd en plus qu'on a déjà vu. Peut-être on a déjà vu des choses similaires dans Usul Fiqh, on a déjà vu des choses similaires dans le Hadith. Donc voilà. Mais sachez qu'il y a des choses fondamentale. Il y a même des qawaïd ici, enfin des qawaïd, des fawaïd concernant le usul fiqh. Ce qui veut dire que ceux qui n'étudient pas usul fiqh, ils auront un aperçu. Ça leur donnera quand même une petite base, un petit aperçu du minimum qu'on doit maîtriser. Et ça, c'est important. Du minimum qu'on doit maîtriser concernant le usul fiqh, les fondements de la jurisprudence, lorsqu'on étudie la jurisprudence. C'est pas parce qu'on étudie uniquement la jurisprudence et qu'on ne fait pas de usul fiqh qu'on n'est pas censé avoir quelques marloumettes, connaissances dans usul fiqh. Non. Donc, le sujet aujourd'hui, on va parler du mouvement du fiqh, de la jurisprudence à l'époque des compagnons. Et si vous le souhaitez, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, on fera un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans le fiqh, comme on l'a fait hier, dans c'était Ulum al-Qur'an hier, on a fait un récapitulatif. Donc dans le cours prochain, inshallah ta'ala, on fera un récapitulatif concernant le fiqh, pour rafraîchir la mémoire. Et peut-être certains n'étaient pas là dès le début, ça leur fera une petite révision, inshallah. Donc, le mouvement du fiqh à l'époque des compagnons. Le but qui est voulu par le fiqh à l'époque des compagnons, ce sont les étapes du fiqh à l'époque des califes bien guidés. Le fiqh, donc, à l'époque des compagnons, c'est-à-dire les périodes, la période des compagnons, mais quels compagnons? Dans un premier temps, al-khulafa al-rashidin, al-rashida, naam, plus particulièrement. Cette ère, elle commence l'ère des quatre califes, des compagnons. On nous dit, elle commence la 11e année de l'Hégire, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle se termine la 40e année de l'Hégire. Tamam? Début de l'ère des compagnons, 11e des quatre califes, 11e année de l'Hégire. Fin de l'ère des compagnons, 40e année de l'Hégire. وَيَعْتَبَرُ هَذَا الْعَصْرُ امْتِدَادًا لِعَصْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc cette époque, donc l'époque des compagnons, L'époque des compagnons est considérée comme la continuité de l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Aoussa, لأن صلى الله عليه وسلم أوصى بالعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. Parce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a exhorté, dans le sens il a ordonné, il a exhorté d'œuvrer par sa propre sunna, puis par celle des califes bien guidés. Radiallahu anhum min ba'dahu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Irbad ibn Sariya radiallahu anhum. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith de Irbad ابن سارية كما نغري il a dit عليكم بسنتي accrochez-vous à ma sunna prenez ma sunna وسنتي الخلفاء الراشدين et la sunna sunna c'est tradition hein. des califes bien guidés al-mahdiyin min ba'di bien guidés après moi عضوا عليها بالنواجد et mordez-y à pleine molaire. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a montré le chemin ordonné après lui de suivre sa continuité, c'est-à-dire les compagnons, ses compagnons. Jusque-là également, rien de nouveau. ويمثل عصر الصحابة رضي الله عنهم عهد التفسير التشريعي. Donc l'ère, l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est à l'exemple, c'est une époque où l'explication et la législation, donc des sources, hein, elle a commencé. C'est pour cela que les compagnons, qu'Allah les agrée, ont expliqué, fassaru, ils ont expliqué beaucoup parmi les textes législatifs. Ils ont ouvert, donc les précurseurs, hein, les premiers en fait, concernant le domaine de la déduction. Al-istinbat, la déduction. فصدرت عنهم اجتهادات تعاد أساسا. Donc, il est parvenu des compagnons des efforts, efforts d'interprétation, efforts de compréhension, des efforts scientifiques qui sont des fondements pour ceux qui sont venus après eux. Il y va de soi, donc, que les juristes parmi les compagnons, qu'Allah les agrée, sont ceux qui ont le mieux compris. Par rapport à ceux qui viennent après eux, les compagnons sont ceux qui ont le mieux compris la religion. Sont ceux qui ont le mieux compris ce qui est voulu par la législation dans la législation, plus particulièrement les jugements concernant tous les domaines en général. Donc pour ceux qui font du usul fiqh, pour eux c'est un peu plus fluide, hein. C'est un peu plus fluide. Pour ceux qui ne font pas du usul fiqh, c'est compréhensible, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que quand on fait du usul fiqh, on a plus de détails dans la tête lorsqu'on parle de jugement, lorsqu'on parle de déduction, istinbat, etc. Mais ça ne veut pas dire que pour celui qui ne fait pas d'usul fiqh, il ne va pas comprendre ce qu'est une déduction. D'ailleurs, on va l'expliquer. Hein. On va l'expliquer comme ça, c'est mieux. Afouane. Également, on a parlé de ijtihadat, de ijtihad, effort d'interprétation, effort de compréhension, etc. Celui qui fait du usul fiqh, il connaît un peu plus le détail de ça. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris, ceux qui ne font pas usul fiqh, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, un effort d'interprétation. Hein. et non plus un istinbat. Donc, istinbat, la déduction, c'est qu'à partir de règles, à partir de bases dans la jurisprudence, de fondements dans la jurisprudence, les savants, ancrés dans la science, ils sont capables de tirer des jugements par rapport à des textes. Ces textes sont le Coran, la Sunna. Alors, quels sont les jugements? Les jugements, à titre, en général, on ne rentre pas dans le détail, c'est un long détail. C'est une matière en soi, si vous voulez. C'est une matière. Alors, les jugements, ce sont, par exemple, l'obligation, le détestable, l'interdit, le préférable, le sunna, etc. Ça, ce sont des jugements. Ces jugements, il faut les tirer à partir des textes du Coran. Quand est-ce que telle chose est obligatoire? Est-ce que telle chose est haram, halal, détestable, permis, interdit? Eh bien, c'est à partir de règles de déduction que les savants déduisent ces jugements. Voilà, c'est quoi l'istinbat en gros, hein, en gros, hein, rapidement. Tamam. وفي خصوص كل حكم على التفصيل. Ensuite, on nous dit un nouveau point. عناية الصحابة رضي الله عنهم بالوحيين. Alors l'intérêt et l'occupation qu'avaient les compagnons concernant الوحيين, c'est quoi? C'est le wahi au duel. C'est la révélation au duel. Donc, c'est-à-dire les deux révélations, le Coran et la Sunna. Donc, la préoccupation qu'avaient les compagnons, concernant, je suis en train d'écrire, c'est pour ça. La préoccupation qu'avaient les compagnons concernant les deux révélations, le Coran et la Sunna. Kana kitab wa sunna fi dharwat ihtimam al-sahaba. Donc le kitab et la Sunna, hein, faisaient partie des choses, des plus grandes choses à laquelle attachaient les compagnons d'importance. Hein. Concernant cette importance qu'ils attachaient au Kitab et au Sunna, nous allons mentionner quelques points. Alors, barakallahu fikum, c'est juste à titre indicatif hein, que je vous dis ça. Ne croyez pas que ce dont on est en train de parler, c'est des histoires qui passent comme ça. Parce que peut-être le shaitan, il peut faire passer cette ambiguïté que ce n'est pas des choses importantes, que c'est des fondements ce dont on est en train de parler. Ce sont des fondements. C'est très, très, très important. Je vais vous donner un exemple, une parabole. C'est comme si on commençait à vous parler d'un sujet. Quelqu'un, vous lui dites, fais-moi un exposé sur un sujet. Peux-tu me faire un exposé sur un sujet? Cette personne, elle revient un temps après et elle commence directement par vous parler du sujet au cœur du sujet. Mais elle ne vous parle pas de la naissance de ce sujet, des différentes étapes de ce sujet, des évolutions de ce sujet, des règles qui sont des règles précurseurs de ce sujet également, des précurseurs, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine, etc., de ce domaine, si vous préférez, et de mentionner les fondements de ce domaine, les conditions, les piliers de ce domaine. Non, il entre directement dans le domaine et il vous parle. On étudie le domaine directement. Eh bien, vous aurez ce qu'on appelle un manque. Vous aurez ce qu'on appelle un manque de connaissances dans le domaine. Voyez. Donc, l'importance qu'attachait, on va citer des exemples, des points concernant l'importance qu'attachait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au noble Qur'an. Alors après, on parlera de la sunna, bien entendu. Alors également, avant de commencer, également, pour venir confirmer et encore appuyer ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est que regardez, si je pense que la plupart d'entre vous, voire tous, hein, je pense, vous êtes, vous avez connaissance de ce qu'on va dire, l'argumentation qu'on va apporter, qu'on va fournir ici. En plus, c'est que regardez les fondements dont on est en train de parler ici, les fondements dont on est en train de parler, on va continuer à en parler ici. Des fondements très importants, vous allez le voir. Il y a des fawaïdes incroyables à la suite. Eh bien, celui qui entre dans l'ambiguïté, c'est bon, on connaît, on en a déjà parlé, alors que déjà c'est faux parce qu'il y a des fawaïdes qu'on n'a jamais vu jusqu'à ici. Mais également, l'importance d'en parler, c'est que un pourcentage non négligeable, voire à part les gens de la Sunna, la plupart des musulmans, ils ont négligé, voire ils ne connaissent pas, voire ils évitent, voire ils ont renié, voire ils sont déviant, ignorant, tout ce que vous voulez concernant ces fondements. Ces fondements-là. Parce que c'est tout simple. Tout ce qu'on a dit depuis le début, tout ce qu'on a dit là, ici, depuis le début, les compagnons, après le prophète, c'est les compagnons. Si la majorité, voire tous les musulmans, suivaient ces fondements-là, dans le fiqh, dans usul fiqh, dans la haqida, dans le hadith, il n'y aurait aucun problème, aucune division, aucune haine, rien. Attention, moi j'essaye de faire passer un message, mais je n'essaye pas de renier la division. La division, parce que c'est inévitable et Allah Ta'ala nous en a prévenus. Mais pour vous dire qu'un des facteurs, les plus aggravants dans la communauté de l'égarement de la plupart des gens, et même on va même pas parler de fiqh, comme les frères musulmans qui ont complètement pris en otage le fiqh en délaissant la voie des salafs et en prenant la voie des khalafs, des égarés. Mais on va parler en général dans la aqida, ne serait-ce que dans le dogme, les associateurs ne seraient pas des associateurs s'ils auraient suivi la voie des compagnons, tout simplement. D'où l'importance de connaître, que ce soit dans la aqida, on doit connaître la voie des compagnons. Et ici, que ce soit dans le fiqh, on est en train de parler de ça là, ici. La voie des compagnons dans le fiqh, eh ben c'est pareil. Parce que quelqu'un, il peut vous embrouiller. Il pourra peut-être pas dans la aqida, mais attention, faut que vous ayez quand même dans la aqida, avoir un bon bagage pour pouvoir répondre aux ambiguïtés, etc. Mais sachez que quelqu'un peut également vous embrouiller dans le fiqh. Puis après, en étant passé par le fiqh, eh bien, il va passer par la aqida. Une fois que vous êtes déstabilisé, ça y est, il vous a balayé. C'est une parabole que je vous donne. Hein. Il vous a balayé. Il a réussi à vous mettre au sol. Il a réussi à vous mettre au sol, c'est-à-dire dans le fiqh, ça y est, balayé, mis au sol, avec ses ambiguïtés. Non, ça n'existe pas. Il y a un tel imam qui est connu et reconnu. Il a dit ça, nanani, nanana. Il met de côté la voix des salafs. Hop, il vous a balayé dans le fiqh. Et bien après, vous êtes au sol, il vous immobilise. Est-ce que après vous allez sortir concernant, lorsqu'il va vous enchaîner dans la croyance, est-ce que vous allez parer à son immobilisation au sol ou pas? Normalement, même dans le fiqh, vous ne vous faites même pas balayer. Même pas. Et c'est pour ça qu'on étudie. Et là, on a utilisé le terme « l'importance des compagnons qu'ils avaient concernant le Kitab ou As-Sunna ». Moi, je vous mentionne l'importance d'étudier ce qu'on étudie ici des fondements dans le fiqh concernant les compagnons. Quelqu'un, l'ambiguïté, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ambiguïté, Shaitan, il peut vous mettre l'ambiguïté, c'est que du fiqh, il y a des divergences, etc. Faites attention, même dans le fiqh, on peut vous mettre des shubuha et vous allez finir... C'est ce que font hein, les frères musulmans, comme je pense que vous avez entendu parler, on n'est pas là pour leur faire publicité, au contraire. Hein. On met en garde contre eux tout ce qui est Ismaïl Mounir, tout ce qui est, je ne me rappelle plus son beau-frère, pareil... Al-Jay également, Rachid, qui s'appelait Abu Rachid, Rachid Abu Hudaifa, et Qardawi, tout ça, les frères musulmans, tout ça. Tout ça. Ils passent par le fiqh, ils vous mettent des ambiguïtés et ensuite ils vous enchaînent dans la aqida. S'ils n'arrivent pas à vous enchaîner directement dans la aqida, ils vont passer par le fiqh. Ils vont vous sortir des noms de Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Uthaymeen, tout ça c'est détourné. Tout ça, c'est détourné. Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas que tout ça, c'est détourné. Tout ça, c'est détourné. Ils vont chercher comment appelle-t-on ça? Ils vont chercher là toutes les paroles de savants où ils se sont trompés. Où ils sont, il y a bien des paroles de savants où la parole, bon, il s'est trompé, le grand savant. Il y a aussi des paroles où le savant, il a été hors sujet. Il y a aussi des paroles où le grand savant, même qui sont connus, ils ont été isolés dans certains cas. Il y a aussi des paroles où des grands savants, ils ont contredit la majorité. Eux, ces gens-là, frères musulmans ou autres, hein, on a aussi l'Asha'ira, on a aussi beaucoup de sectes, ils vont piocher là-dedans. Et quand ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié le fiqh, c'est pour ça que vous êtes, Inch'Allah ta'ala, vous êtes dans le bon endroit. Inch'Allah ta'ala. Et là, j'essaie de vous faire comprendre, même dans le fiqh, c'est important de connaître la voie des salafs. Et bien, ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas un minimum, alhamdoulilah, il y a des prêcheurs, ils sont là. Même nous, on a fait au moins 4 volets sur ça, réplique à Ismaïl Mounir. Sur YouTube. Mais il y a des gens, ils ne connaissent pas. Ils se font embobiner. On leur dit du Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit. L'imam Malik, il a dit. L'imam Intel, il a dit. L'imam. Oh là 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 là. Ils sont éblouis. Même Sheikh al-Uthaymeen, ils vont vous sortir. Même le Mufti d'Arabie, si vous voulez. Ils vont chercher des questions là où ça traite à ambiguïté. Seuls les étudiants ou les savants, ils savent où ils veulent en venir. Et bien, comme ça, ils ont ramené plein de personnes. Et bien, il y a même des prêcheurs, soi-disant de la sunna, qui se cachent derrière la sunna, ils utilisent ces ambiguïtés. Certaines ambiguïtés. Non. Donc voilà, c'est pour vous dire que même dans le fiqh, c'est une expression, hein, je ne prétends rien vous concernant. Je ne prétends rien vous concernant, mais par contre, c'est prévenir pour guérir. Naam. Donc, faites attention de ne pas s'endormir. On doit faire attention de ne pas s'endormir concernant le firq. Parce que le firq, il a également une grande importance. Si tu n'étudies pas le firq, tous les égarés, ils peuvent venir, ils peuvent, c'est une porte ouverte. Parce qu'il y a des masa'il où, par lesquels les innovateurs, les associateurs, tout ce que vous voulez, ils entrent par cette porte pour tous les jeunes de la Oumma, les ignorants, les, ceux qui ne savent pas encore où ils en sont, ceux qui n'ont pas étudié, même des jeunes de la Sunna qui n'ont que l'appellation prétention à appartenir à la Sunna, hop, ils sont embobinés, ça y est, hop, ils sont partis avec eux. Donc on continue. L'importance qu'avaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le Coran. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été témoins de la descente du Coran sur le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Et écoutez bien, l'impact sur les compagnons a été immense. L'impact de la du témoignage lors de la descente de la révélation. Imaginez-vous, c'est juste comme ça, imaginez-vous, vous êtes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous êtes témoin du message, du Coran qui descend sur le prophète directement. Imaginez-vous, eux, cela a eu un impact immense, on nous dit ici. فَاشْتَغَلُوا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Alors regardez, écoutez bien, grosse faïda ici. Alors si vous préférez, il y a des gens, c'est juste pour vous faire comprendre que je ne vous dis pas, je ne vise personne, hein. C'est juste pour vous faire comprendre. Il y a des gens, des fois, dans les enseignements, des professeurs, ce que vous voulez, ils vont lire ce qu'il y a à lire dans l'enseignement et ils ne vont pas aller plus loin que la lecture. Mais l'étudiant ou autre, hein, éducateur ou qui est bien avisé, il doit appuyer là où il y a des grosses fawaïdes. Et moi, c'est ce que je fais. Quand il y a des grosses fawaïdes, j'appuie. C'est-à-dire, je mets l'accent, je m'arrête dessus. Hein. Alors ici, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit فَاشْتَغَلُوا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حِفْظًا فَفَقْهًا وَعَمَلًا. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont occupés. Ils ont porté un énorme intérêt au Qur'an. Écoutez bien, c'est là la faïda. Dans la mémorisation, dans la compréhension et dans la pratique. Alors, vous verrez qu'une des immenses particularités des compagnons, c'est de mémoriser le Qur'an, de comprendre le Qur'an et de pratiquer le Coran. Alors, qui aujourd'hui fait ça? Qui aujourd'hui peut revendiquer faire cela? Déjà, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des Qura', des lecteurs de Coran, et connaissaient le Coran par cœur. Et il y en avait une grande quantité, mais ils n'avaient pas réuni ces trois choses fondamentales. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous savez, il y a des gens, il y en a même, ils passent sur YouTube, ils sont connus ou je ne sais quoi. Vous avez même des gens qu'on a mentionnés dans la liste tout à l'heure, des frères musulmans. Ça se filme en train de lire le Coran, de psalmodier le Coran, etc. Alors que ce n'est pas la voie des salafs. Ce n'est pas la voie des salafs. Également, il y a des gens qui sont huffaz al-Qur'an. Ils connaissent le Qur'an par cœur, mais ils n'ont pas la compréhension du Qur'an, ils n'ont pas la pratique du Qur'an. C'est pour ça que les gens de la Sunna, et il était connu des compagnons, qu'ils apprenaient divers versets, ils mémorisaient, ils pratiquaient, et ils apprenaient le sens. Et après, 10 autres, en général. Donc ça, c'est un point fondamental que vous devez connaître et mettre en pratique. Ce n'est pas une question de belle voix, parmi les plus grands innovateurs, ils ont la connaissance du Coran. Hein. Et une récitation, on peut citer d'ailleurs l'exemple des Khawarij. Que nous a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Allez, on va faire participer, inshallah, les étudiants, avant de clôturer ce cours. On va faire participer les étudiants en demandant, justement, par rapport au Coran, comment le prophète, donnez-nous un exemple, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrit les Khawarij. Comment le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, par rapport au Coran, qui va nous mentionner, nous trouver, comment le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a décrit les Khawarij, par rapport, les gens de l'innovation, par rapport au Coran. C'est-à-dire, par Masha'Allah, senti. Donc ça, c'est pas le dalil entier, mais c'est si vous préférez, le petit résumé en une phrase, en trois mots, par rapport à ce qu'a dit le prophète. Hein, c'est une bonne réponse. Hein, par rapport, hein, leur récitation par rapport à la vôtre ne dépassera pas leur gosier. Non. Alors je regarde chez les frères. Que le Coran passe comme la flèche traverse quelqu'un. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est dans le hadith également. C'est dans le... Que le Coran passe comme la flèche traverse quelqu'un. Comme la flèche traverse sa cible. Hein, le trou de la cible. Il y a un hadith également. Naram, hein, c'est justement... Moi, je parle d'un hadith. Hein. Naram. Mashallah, il y a une sœur, Allah Ibarak, on va lire, hein, ce qu'elle nous a mentionné à propos des Khawarij. Il dit, je l'ai entendu dire en pointant sa main vers l'Irak, il apparaîtra, c'est-à-dire en Irak, des gens qui réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gosier, ne le comprendront pas et ils sortiront. Donc vous voyez, dépassera pas leur gosier, ça veut dire ils n'ont pas les trois caractéristiques des compagnons comme on vient de le citer. Flèche sort de sa cible. J'arrive pas à le lire entier, hein. J'ai un problème avec le chat, je suis désolé, hein. Secte rendant mécréants les musulmans, considérant leur sang comme licite et ne reconnaissant aucune autorité établie. Donc ça, ce sont les, comme vous le savez, ce sont les Khawarij. Les Khawarij. Tamam. Alors les frères. Le frère Imbaï, que nous dit-il? Les innovateurs ont interprété cela comme le lecteur. Alors c'est celui qui le mémorise, le comprenne et le met en pratique. Naram, c'est bien ça. Donc voilà, c'est une faïda assez très 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 importante, hein, qu'il faut connaître. Naram. Taïm. Ils comprennent aussi sans les savants. Naram. Ils ont les Naham, les Khawarij, ils ont une compréhension selon leur passion, qui n'est pas la compréhension. Justement, on revient aux Salafs, hein, ils ont détourné la compréhension des Salafs concernant le Coran. Ils ne prennent pas des grands savants de la Sunna. Tamam? Ils ne prennent pas des grands savants de la Sunna. Taïb. Donc, on nous dit. Pardon, je reviens sur la faïda. Fashtaghalu bil Qur'an al-Karim hifdhan wa tafaqquhan wa 'amalan. Alors on nous dit, on nous rapporte à la suite de cette faïda, hein, c'est-à-dire les trois points sur lesquels tout fait la différence chez les compagnons concernant le Qur'an. On nous dit, il a été rapporté d'Ibn Umar radiyallahu anhu qu'il a dit, nous avons vécu Nous avons vécu des moments à notre époque où une personne a reçu la foi avant le Coran. Lorsqu'une sourate descendait sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait le licite et l'illicite. Et nous n'avions pas, c'est-à-dire on ne s'arrêtait pas à cela. On ne s'arrêtait pas à cela. Wa fiha وعن أحد كبار التابعين هو أبو عبد الرحمن السليمي رحمه الله قال أنا إن أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشرة. Donc ça c'est ce qu'on a dit précédemment. On nous ramène encore un dalil concernant les compagnons. Donc ça c'est une personne qui fait partie des grands tabi'in. C'est-à-dire ce sont les élèves des compagnons. Kibar tabi'in, les élèves des compagnons, ceux qui sont venus juste après les compagnons, mais qui sont les élèves des compagnons. Il nous dit, qui s'appelait Abu Abdurrahman Sulaymi, rahimahullah, qui a dit, nous avons pris le Coran d'un peuple, comme d'un peuple, d'un groupe, d'un peuple, qui nous ont informé que lorsqu'ils apprenaient le Coran, ils apprenaient 10 versets. Et ils ne dépassaient pas ces 10 versets jusqu'à ce qu'ils les aient maîtrisés. Nous apprenions donc le Coran et le mettions en pratique. Donc, Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihad al-qadr. On va s'arrêter là pour ce cours. Et on continuera, on ne cessera de continuer dans le fiqh, d'avancer dans nos cours. On vous donne rendez-vous pour ceux qui ont cours sur la Aqida dans une vingtaine, Inch'Allah ta'ala, de minutes. Barakallahu fikoum pour les versets, Adilla. Pour ceux qui ont des questions, envoyez-les sur les groupes. Parce qu'à cause des changements d'horaire de la prière, là, on n'aura pas le temps pour les questions ici directement, mais alhamdoulillah, vous pouvez envoyer vos questions sur le groupe, et si ce sont des questions urgentes, mentionnez-le et inshallah on vous répondra pour les questions urgentes directement, et pour les autres dès que nous avons un moment, inshallah ta'ala. Wa barakallahu fikum pour votre présence et votre participation. Qu'Allah vous préserve tous. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.